réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel, c'est tous les jours de 6h à 6h30 ou quand vous voulez, en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Hier s'est ouvert le Festival de Cannes, 69e édition, avec le dernier film de Woody Allen. Et depuis lundi, le critique de cinéma Frédéric Mercier ouvre l'émission en parlant des rapports entre la littérature et le cinéma, les liaisons fructueuses. Dans un instant, le 4e épisode. On va pas parler seulement de cinéma, on va parler aussi des séries télé aujourd'hui en deuxième partie avec l'universitaire Ariane Hudley qui sort au PUF un excellent ouvrage consacré à la série américaine The Wire. Et avec elle, on va se demander si les grands écrivains d'aujourd'hui et de demain n'ont pas déjà déserté le cinéma pour les séries télé. Mais pour commencer, notre tête chercheuse, Frédéric Mercier.
Cinéma et littérature, les liaisons fructueuses. Une série avec Frédéric Mercier.
Quatrième épisode, capter le réel en passant par la fiction. Bonjour Frédéric Mercier.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que les écrivains français d'aujourd'hui, comme François Bégodeau, comme Mélis de Kerangal, Emmanuel Carrère, on a vraiment l'impression que leurs romans sont adaptés au cinéma, sont très attendus par les producteurs parce que ils sont le plus près des réalités sociales, ils sont là, aux aguets des grands changements.
Dans le cas par exemple de Bégodeau, je pense effectivement qu'il y a un lien très fort entre l'idée de ce que Bégodeau, pour reprendre un terme qu'il utilise tout le temps, documente du réel, et la façon dont il va effectivement le faire en passant par un autre prisme qui sera celui du cinéma. Oui.
Et Mélis de Kerangal, deux films qu'on attendait à Cannes d'ailleurs, l'adaptation de Réparer les vivants par Katell Kiliveri,
oui.
Avec Tara Hym, avec en plus beaucoup de stars, mais qui n'a pas été retenu, et puis Corniche Kennedy, adapté par Dominique Cabrera.
Oui, je pense également que c'est la même chose que pour Bégodeau. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose aussi chez Kerangal qui est un petit peu en adéquation avec l'époque, avec ce qui est en train de se passer, qu'elle pourrait tout à fait documenter effectivement dans ces films, dans ces adaptations de ces films. Ne les ayant pas encore vus, je ne sais pas très bien.
Est-ce que aujourd'hui les écrivains comme Mélis de Kerangal, comme François Bégodeau, qui ont connu un succès en librairie, mais qui ont été surtout appelés par l'industrie du cinéma, est-ce qu'aujourd'hui, ils pourraient avoir tendance à écrire en imaginant déjà comment leur roman va être adapté au cinéma ou récupéré par le cinéma, ce qui risque de fausser un peu quand même la donne, ou qui risque de donner une nouvelle littérature prédisposée à être adaptée à l'écran.
C'est une idée qu'on a souvent. On a souvent l'impression, en ouvrant des livres, que les livres ont déjà été écrits pour être scénarisés, pour être adaptés au cinéma. On dit souvent par des livres qui sont extrêmement dialogués, par exemple, avec un découpage qui a l'air déjà d'être presque déjà accompli en littérature. Je pense que par exemple dans le cas de Bégodeau, la question, c'est, je ne crois pas qu'elle ne soit posée en ces termes-là. Lui-même dit que les mots sont écrits dans la glaise et qu'ils n'ont pas vocation à être mis en en image ou dans un film, et que ces mots-là n'ont pas vocation à être illustrés. Je pense que dans le cas de Bégodeau, pour le coup, s'il y a eu des expériences cinématographiques, et il y en a eu quelques-unes, il y en a une bientôt qui va arriver.
C'est Kichiche qui adapte un roman de Bégodeau en ce moment.
La blessure la vraie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bégodeau ne travaille pas sur l'adaptation de La blessure la vraie, alors qu'il a travaillé sur l'adaptation d'Entre les murs.
Avec Cantet, oui.
Avec Cantet, qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Qui a eu la Palme d'Or à Cannes.
Il a un peu plus que collaboré, puisqu'il joue aussi dans son film.
Oui, et en réalité, c'est ça la raison du passage de Bégodeau, je dirais, au cinéma. Lui le dit, il dit que ce qui l'a intéressé, ce n'est pas la question de l'adaptation, c'est la question de l'incarnation. Il y a toujours dans les romans de Bégodeau la figure du personnage principal, il appelle ça des narrateurs coquilles vides. Ça veut dire des personnages qui sont vraiment sans chair, qui n'existent pas réellement, qui sont la somme des situations qu'il traverse. Et lui, ce qui l'intéressait quand il a eu cette idée, quand Laurent Cantet est venu le voir pour adapter Entre les murs, c'était la possibilité, à l'écran et au cinéma, d'incarner ce narrateur coquille vide. Et alors ça passe évidemment par des questions très différentes. Et ce qui s'est produit, c'est que au moment où il était en train d'écrire l'adaptation d'Entre les murs avec Cantet, les producteurs lui ont demandé de faire des choses qui n'existaient pas dans le roman, c'est-à-dire des scènes soudain où on allait découvrir l'intimité de ce professeur de français, parce que il faut, selon un canon de scénario, il faudrait qu'on puisse créer une forme d'empathie artificielle pour le personnage principal. Et c'est absolument pas le désir de Bégodeau quand il écrit un livre et quand il passe au cinéma. Donc lui ne voulait pas qu'il y ait ces scènes d'intimité artificielle pour créer cette empathie qui n'existe pas dans le roman. Ce qui l'intéressait, c'était ce narrateur coquille vide. Et donc c'était la façon dont il allait pouvoir l'incarner à l'écran et de quelle façon il allait pouvoir interagir dans le film comme peut-être dans son livre. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il est devenu, on va dire, le metteur en scène à l'intérieur du film. Quand elle lui a donné à peu près la possibilité d'être à l'écran, et c'est lui qui s'est mis à diriger les enfants dans la classe. Et en dirigeant les enfants dans la classe, en étant le metteur en scène à l'intérieur du film, il se disait qu'il allait peut-être réussir à être ce narrateur sans chair. Ce qui peut poser aussi d'autres problèmes, puisqu'on n'oublie quand même pas la figure de Bégodeau, l'écrivain au cinéma.
Oui, il était déjà connu d'ailleurs, Bégodeau, quand il a tourné dans ce film.
Oui, bien sûr, il était comme écrivain, comme chanteur de groupe punk. Il a eu longtemps un groupe punk, s'appelait Zabriskie Point. C'était déjà quelqu'un qui avait écrit, oui.
Est-ce que c'était aussi un argument pour le film? Hier, on a vu comment les écrivains pouvaient à leur tour devenir des comédiens ou bien jouer leur propre rôle d'écrivain au cinéma, avec notamment le cas Michel Houellebecq. Est-ce que c'était aussi le cas pour François Bégodeau?
Je pense qu'il y a effectivement un gage à ce moment-là de réussite de l'adaptation. C'est-à-dire puisqu'on est toujours en train de se poser la question de la fidélité de l'adaptation, à partir du moment où vous avez l'auteur du livre, de l'auteur de la matrice, qui joue à l'intérieur du film, c'est comme si cette adaptation était autorisée, on va dire, ou fidèle, puisque c'est lui-même qui s'en est occupé et qui l'incarne à l'écran, à la fois professeur de français, mais également écrivain dans le film.
Alors prenons par exemple trois écrivains français que j'aime beaucoup, donc il devrait pas y avoir de problème. Bégodeau et Maïlis de Kerangal sont adaptés par des réalisateurs, c'est-à-dire des gens du métier, et jusqu'à présent plutôt avec bonheur, quoi qu'il faut attendre les adaptations des romans de Maïlis de Kerangal. Mais avec Bégodeau, c'était plutôt un beau film, Palme d'Or d'ailleurs à Cannes, il faut pas l'oublier. On attend avec beaucoup d'impatience l'adaptation en Tunisie de l'histoire de l'adolescence de François Bégodeau par Abdelatif Kechiche. Et puis un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est Virginie Despentes, quand elle adapte elle-même ses films, eh ben disons qu'on préfère ses romans. Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Mercier?
Oui, dans le cas de Baise-moi, ça pose vraiment un problème. Le film est absolument informe. Donc moi, je ne reconnais pas Despentes à l'intérieur de ce film. Sinon, je n'en vois que les signes ou les symptômes. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression comme si le film était une vitrine de ce que devrait être la littérature de Despentes, mais au cinéma. C'est-à-dire, il y aurait du sexe, il y aurait de la violence, il y aurait tout ça, mais il ne reste rien de l'écrivain. Il ne reste que les symptômes de ce que devrait être Despentes, mais presque comme une vitrine. Alors, je ne retrouve pas. je ne retrouve pas l'écrivaine.
Et pourtant, elle, elle capte très bien le réel pour, et elle le transforme très bien en fiction. On a envie de voir les romans de Virginie Despentes adaptés par un bon réalisateur, une bonne réalisatrice. Mais en disant ça, je me dis, est-ce que ce n'est pas trop injuste comme verdict? Est-ce que ces films de Virginie Despentes, que ce soit Bye Bye Blondie ou même Baise-moi, dans quelques années, si ça se trouve, on va les revoir, on va les trouver très bien, et on va dire qu'ils expliquent au moins l'époque, qu'ils documentent.
Oui, sans doute, peut-être qu'ils documenteront sur le réel, puisque c'est le sujet, ou peut-être ils documenteront sur une manière d'aborder la littérature au cinéma.
Généralement, les écrivains ne sont pas toujours contents de leur adaptation, ou ça a beaucoup changé, Frédéric Mercier? On verra ça demain, quand on parlera de la bande dessinée à la rescousse du cinéma français, le cas de Manu Larcenet, mais d'une manière générale.
Eh bien, écoutez, par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure un tout petit peu d'Emmanuel Carrère, Carrère, par exemple, reconnaît qu'il y a quelques défauts dans La Moustache. Il y a des choses dont il n'est pas satisfait dans l'adaptation qu'il avait faite de ce roman qu'il avait écrit très tôt, dans les années 80. Quelque chose qui ne s'est pas produit au cinéma, et il s'est beaucoup interrogé sur la fin. À la fin de La Moustache, il y a une scène très longue où le narrateur se découpe la bouche avec un rasoir. C'est une scène assez insoutenable, et il avait choisi au cinéma de ne pas mettre cette scène en image. Alors pourtant, elle a quelque chose de très cinématographique, hein. On pense au premier court-métrage de Martin Scorsese, par exemple. Et il avait choisi de prendre une autre voie. Et rétrospectivement, Carrère disait que c'était trompé et que la fin de La Moustache en film était peut-être le principal défaut.
Carrère qui s'est essayé aux séries télé en France avec très peu de succès. Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que la série Les Revenants a eu un certain succès, mais en tout cas, lui, il a jeté l'éponge, si j'ai bien compris, il a refusé de continuer la série.
Oui, il raconte ça dans les premières pages du Royaume, qui est son dernier roman. En fait, qu'il a commencé à travailler avec le réalisateur sur Les Revenants. Il faut savoir que Les Revenants, c'est assez intéressant, car c'est une série télé qui est adaptée d'un film de Romain Campillo. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on pourra en parler avec l'invité. Il y a de plus en plus de séries télévisées adaptées de films. On parlait de littérature. Et donc, soudain, la série télé ne va pas forcément chercher aujourd'hui sa matière dans l'écriture, mais elle va la chercher dans le cinéma. Et il raconte ça au début du Royaume, Carrère. Il explique que ça a duré quelques épisodes, ça s'est très bien passé. Et puis au bout d'un moment, il en avait un peu marre, je crois que c'est les termes qu'il utilise, d'être sermonné, d'être rabroué par des jeunes peigne-cul qui avaient l'âge de son fils et qui devaient constamment lui expliquer comment formater un petit peu son écriture aux exigences de la télévision. Mais il se trouve, il faudra voir avec votre invité.
Ariane Gudelet, qui est déjà avec nous.
Moi, je trouve les premiers épisodes des Revenants, avant la suite, avant la deuxième saison en particulier, les 5-6 premiers épisodes sur lesquels Carrère a travaillé, je trouve que c'est absolument les plus brillants de la série.
Allez, on va parler d'une série qui est réellement brillante, The Wire.
Y'all need to open this door, man, for a huff and puff. Come on now, by the hands of your chinny chin chin.
Omar, you best roll out. We up in here with a Mac 10.
Oh, I think's not, Terrell. I think's not. Y'all might need to think this through and stop wasting my time. Because Omar can come back tomorrow. And the next day. And the next day. And I will put a bullet in all y'all behind what happened right now. You heard?
Bonjour Ariane Hudley.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence et spécialiste des relations texte-image et vous venez de publier au PUF, presse universitaire française, un remarquable ouvrage consacré à la série américaine The Wire, sous-titré Les règles du jeu The Wire. J'espère que tous les auditeurs de France Culture savent de quoi il s'agit. C'est une fresque vraiment sociale incroyable qui se passe à Baltimore. Cela commence d'abord par une enquête policière sur des trafics de drogue. Ça, c'était la première saison. Et puis tout de suite après, au fil des saisons, on passe à d'autres institutions, d'autres milieux de la ville. Le port, l'activité du port, la politique municipale, l'école, la presse. C'est toute une société qui est montrée avec réalisme, humour et de préférence en brouillant les règles établies des séries préexistantes. Pourquoi avoir choisi d'abord The Wire ? Pourquoi cette série pour vous est emblématique d'aujourd'hui, Ariane Hudley ?
Ben, tout simplement parce que j'ai été fascinée par cette série dès que je l'ai vue et que j'y ai trouvé à la fois le plaisir que je ressens devant des grands films et le plaisir de la complexité d'un roman très long, très détaillé, très fouillé, très exigeant. Et il y avait cette collection au PUF qui publie un petit livre par série, et il se trouve que j'ai eu la possibilité de prendre The Wire, et c'était une série sur laquelle j'avais écrit plusieurs articles, donc c'était dans la logique. C'est une série qui m'intéresse. Alors, il y a eu beaucoup d'écrits sociologiques sur The Wire. Moi, je ne suis pas sociologue, je travaille plus sur l'esthétique du cinéma et sur la littérature, et justement je trouvais que sur The Wire cela manquait un petit peu, que l'esthétique avait été un petit peu négligée. Enfin, il y a eu des articles qui ont été écrits surtout en anglais. Et donc j'avais envie de rendre hommage au style, à la précision esthétique de The Wire, à son immense talent narratif aussi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce petit livre.
Comme le critique Frédéric Mercier, présent avec nous cette semaine, vous avez beaucoup travaillé sur la relation entre la littérature et le cinéma, le texte et l'image. Est-ce que un journaliste et un flic, pour parler de ceux qui ont créé la série de The Wire, vous les considérez comme des romanciers, comme des écrivains, et pourquoi pas d'ailleurs?
Alors pourquoi pas? Alors déjà, il n'y a pas que deux auteurs, c'est ça qui est intéressant dans les séries, c'est qu'il y en a beaucoup. Mm-hmm. Et que certes, David Simon est journaliste, Ed Burns, le co-créateur, était flic au départ, après il a aussi été marine, il a aussi été enseignant, donc c'est vrai que c'est des gens qui débordent un petit peu les frontières de là où ils travaillent. David Simon, c'est un journaliste. Mais c'est un journaliste qui travaille beaucoup le style, c'est-à-dire qu'il a certes publié beaucoup d'articles dans le Baltimore Sun, où il a travaillé pendant de longues années, mais il a aussi publié des ouvrages de non-fiction, par exemple un gros bouquin qui s'appelait Homicide, qui a été traduit en français sous le titre de Baltimore, où il chronique la vie et le travail quotidien des policiers de la brigade criminelle de Baltimore. Il a passé toute une année comme journaliste embarqué au sein de la brigade criminelle de Baltimore, et quand il écrit ce livre, il l'écrit comme un roman. Alors certes, c'est du journalisme, c'est pas de la fiction, mais c'est écrit dans une prose assez romanesque, avec un souffle un petit peu lyrique parfois. Donc il me semble que il y a
mais on n'a pas l'équivalent en France. Hein. On n'a pas quelqu'un qui a décidé d'adapter au cinéma un récit ancré dans le réel, de demander à une Florence Aubenas, par exemple, de venir fictionner à partir de son travail journalistique. Ça, on ne l'a pas eu. Hein.
Il me semble qu'on a plus de problèmes en France avec cette séparation entre ce qui est fiction et ce qui n'est pas fiction. Et aux États-Unis, il me semble qu'il y a plus de fluidité entre le réel et ce que la fiction peut en faire. C'est-à-dire que la fiction, que ce soit par les séries télé ou par le cinéma, s'empare beaucoup plus vite des faits d'actualité, de ce qui se passe, de la politique, des guerres. Alors qu'en France, on a plus de mal, il me semble, avec cette séparation entre ce qui est censé être réel et ce qui est censé être fictif.
Et pourquoi Frédéric Mercier, qui est resté avec nous, est-ce que c'est parce qu'en France, on donne une position stratégique à l'écrivain, au romancier? C'est pas quelqu'un à qui on va lui demander d'écrire très vite une idée parce qu'on voudrait à la commande, c'est-à-dire une idée parce qu'on a envie qu'elle soit portée très vite à l'écran, c'est ça?
Oui, je pense qu'il y a encore une division des tâches, en fait. Une division des tâches entre journalistes, écrivains et showrunners, personnes qui vont s'occuper. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, on voit quand même émerger en France en ce moment des fictions télévisées qui ont tendance quand même à vouloir un petit peu lorgner sur le réel. On a vu dernièrement des séries politiques en oui. particulier, qui est quelque chose qui était totalement absent, je crois, de la fiction française.
Oui, oui, je pense que les séries françaises sont en train d'évoluer énormément, donc ça va forcément se développer.
Ouais, le Bureau des légendes, par exemple.
Ou Baron Noir.
Ou le Baron Noir.
Marseille.
Marseille.
Ou la Marseille, c'est ça. Quel fiasco. Non, mais par exemple, est-ce que le showrunner et son équipe, ce sont vraiment des scénaristes, c'est-à-dire vraiment un métier à part, où on peut y trouver des écrivains, des gens qui viennent de la littérature, Ariane Hudley?
C'est intéressant cette distinction que vous faites entre scénariste et écrivain, parce que les scénaristes sont écrivains, finalement. Et il y a peut-être plus de fluidité, par exemple, sur The Wire. Donc, David Simon était journaliste au départ. Il est venu à la fiction un petit peu par hasard, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément lu de littérature, qui est féru de littérature. Il parle de The Wire comme tragédie grecque, par exemple. Il y a énormément de références à la littérature dans The Wire. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup vu de films, qui est très érudit en matière de cinéma. Il a pris des cours de cinéma à l'université. Et donc, pour moi, la manière dont il écrit est aussi un petit peu empreinte de cette sensibilité aussi visuelle, scénaristique. Et les scénaristes avec lesquels il a écrit The Wire sont des grands écrivains de romans noirs aux États-Unis. Il y a George Pelecanos, par exemple, Dennis Lehane, qui a écrit Shutter Island, Richard Price, qui a écrit Clockers. Et ces écrivains passent aussi souvent de l'écriture romanesque à l'écriture scénaristique, que ce soit pour le cinéma ou pour les séries. Donc, il y a moins de frontières, j'ai l'impression. C'est des types d'écriture différentes. Certes, il doit y avoir un grand plaisir de romancier quand on est seul à bord, qu'on contrôle tout, mais je pense qu'ils sont aussi sensibles à l'intérêt de la contrainte dans l'écriture. J'ai eu l'occasion de discuter avec George Pelecanos, par exemple, qui m'a dit que pour lui, ce qu'il avait écrit de mieux, c'était la scène entre Avon Barksdale et Stringer Bell dans l'épisode 11 de la saison 3, où on se rend compte que voilà, ils se sont trahis, c'est leurs adieux. Voilà, pour lui, c'est ce qu'il a écrit de mieux entre tous ses romans, ses scénarios. Pour lui, cette qualité a été possible parce que justement, il y avait une contrainte, parce qu'il a appris à se coordonner finalement à toute cette équipe et à se fondre dans cette histoire qui était celle de The Wire.
Et cette culture américaine est là depuis longtemps, depuis l'âge d'or hollywoodien. Est-ce que en France, en Europe, des écrivains se mettent au service d'un canevas, d'une série, d'un film voulu et calibré par des producteurs?
J'ai du mal à... Je ne sais pas si votre Frédéric autorité Mercier a une idée, mais...
Ouais. Moi, quand on parle de séries comme ça, je pense d'abord aux séries dans les années 10. Enfin, moi, je pense d'abord qu'il y a une tradition. Il y a une tradition du roman feuilleton en France et donc de la série. Alors, est-ce qu'il y a, oui, il y a eu, bien sûr, il y a eu Maurice Druon pour Les Rois Maudits, tout simplement, qui est un téléfilm en épisode. Voilà, on a l'exemple d'Emmanuel Carrère dernièrement. Mais je pense également qu'il y a toujours eu quand même l'envie d'adapter en série des romans. Dans les années 80, je crois 70, il y avait L'île aux 30 cercueils, par exemple, adapté de Gaston Leroux. Donc il y a quand même cette tradition du sérial, du roman feuilleton, qui existe en France. Mais...
Enfin, pour terminer, Ariane Hudley, pourquoi cette série a eu un tel succès?
Alors, elle n'a pas eu tout de suite du succès quand elle a été diffusée sur HBO aux États-Unis. L'audience était très restreinte.
Les deux premières saisons étaient vraiment moyennes. Oui.
Voilà, en termes d'audience, bien sûr. Elle est devenue célèbre par le bouche à oreille à partir du moment où elle a été terminée, en fait, à partir de 2008. Notamment grâce à la sortie en DVD, parce que c'est une série qui est quand même assez exigeante et qui se savoure peut-être plus quand on peut la regarder plusieurs épisodes à la suite, quand on peut y revenir, quand on peut la revoir aussi. Donc la sortie en DVD, le fait de disposer de l'ensemble a sans doute contribué à la faire connaître davantage. Il y a eu aussi l'effet Obama, parce que quand Obama s'est fait élire en 2008, dans une interview qui est devenue depuis assez célèbre, il a dit que sa série préférée, c'était The Wire, et que le personnage préféré dans la série, pour lui, c'était Omar. Et donc, pour moi, il y a une espèce de concomitance aussi entre l'élection d'Obama et le moment où The Wire est devenu très, alors, populaire, il me semble. Il y a eu aussi le fait que la série a été très vite utilisée dans des cours à l'université, a fait l'objet de colloques aussi, d'émissions de radio. C'est une série qui est très propice à la réflexion. On peut s'en servir de manière pédagogique pour réfléchir à ce que c'est que la ville aujourd'hui, à ce que aux problèmes économiques que pose l'économie ultralibérale. Donc c'est une série qui prend son temps, et donc il me semble que c'est assez logique finalement que la reconnaissance populaire ait pris son temps aussi.
Et dans votre ouvrage, Ariane Hudley, vous dites que la dimension réaliste est très importante dans la série The Wire, mais le succès de la série, vous l'expliquez parce que justement, il n'y a pas de ligne où les lignes entre la fiction et la réalité dans cette série ont beaucoup évolué par rapport aux fictions qui étaient produites auparavant.
Oui, on parle certes de The Wire comme fiction réaliste. Évidemment, c'est très réaliste, c'est tourné à Baltimore. Il n'y a pas de musique qui nous dit exactement ce qu'on doit ressentir à tel moment. Il y a pas de flashback,
et encore parce qu'il a été
imposé
par HBO.
Il n'y a pas de grands effets, de lumière, de grands paysages contemplatifs. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'une captation un peu rude, d'une réalité sordide. Il y a vraiment une esthétique très précise, un travail de la lumière, des cadrages qui reviennent souvent et qui construisent un véritable univers fictionnel. Et une trame narrative très complexe. Mais encore une fois, l'image n'est pas négligée, et le son aussi. Quand vous avez passé l'extrait où on entend Omar qui s'annonce dans les rues de Baltimore, je trouve que c'est rendre hommage à The Wire que de la passer dans une émission de radio, parce que le traitement du son est extrêmement précis. Et donc au-delà des dialogues qui sont très bien écrit, il y a une véritable un véritable univers sonore de The Wire qui est fait de bribes de musique qu'on entend qui sortent d'une radio qui est posée dans la rue. On a les voix des dealers qui annoncent les noms des drogues qu'ils sont en train de vendre. Donc on a tout un univers qui est extrêmement sophistiqué, très compliqué à mettre en place. La réalisation de The Wire, c'est pas quelque chose où on a simplement posé une caméra rapidement dans un coin de rue. C'est quelque chose de très sophistiqué. Donc là, encore une fois, pour que le réalisme fonctionne bien et soit absolument juste, il est nécessaire de l'associer à une esthétique fictionnelle très précise.
Alors, les règles du jeu, c'est bien sûr pour parler de la série de Wire, et des règles du jeu intimement liées à l'intrigue de l'histoire, mais c'est aussi une manière de rendre hommage, je suppose, à Jean Renoir, et de faire ce parallèle, parce que effectivement avec du marivaudage, Jean Renoir pouvait dépeindre plusieurs classes sociales. Ça, c'est bien sûr, c'est voulu, Ariane Hudley.
Oui, bien entendu. Oui, parce que il me semble que cette idée de règles du jeu, certes, elle s'applique à la métaphore du jeu qui est partout dans The Wire, mais du point de vue, encore une fois, de l'esthétique de la représentation, même si la règle du jeu de Jean Renoir et The Wire semble être à des lieux l'un de l'autre, néanmoins, ils partagent certains aspects fondamentaux, comme le choix des cadrages un petit peu larges, le fait de prendre son temps, et l'idée aussi de pouvoir de représenter un fonctionnement social à travers des histoires fictives très précises. Simplement, The Wire a 60 heures à sa disposition. C'est pour cela, il me semble, qu'on peut passer du singulier au pluriel dans la forme de la série télévisée.
The Wire, les règles du jeu, d'Ariane Hudley, c'est au PUF. Frédéric Mercier, vous avez vu la série, vous l'aimez ?
Oui, j'aime beaucoup cette série, oui, effectivement. Et moi, ce qui me semble intéressant par rapport à cette question du réel, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de singer une esthétique réaliste avec une caméra qui serait tremblotante, comme on a pu voir dans d'autres séries télé, et qu'effectivement, il y a une sophistication à l'écran pour représenter tout ça.
Et Frédéric Mercier, les écrivains du 7e art, chez Séguier. Frédéric Mercier, qu'on retrouve demain pour le dernier épisode de notre série Cinéma et Littérature. Les liaisons fructueuses. Un autre jour est possible a été préparé avec l'aide précieuse d'Anaïs Isbert et de Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Michel Mestre. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.